ingénieur, l'ingénieur dans le domaine de l'électricité, une école qui s'appelle SUQUEBEC. Et après, comme ça a été dit, je me suis orienté vers l'économie, j'ai fait un doctorat d'économie. Et j'ai commencé ma carrière au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, juste après le premier choc pétrolier, au moment où, je dirais pour la première fois, les problèmes de l'énergie se sont posés à un niveau planétaire. Et j'ai ensuite travaillé principalement dans cette agence, qui à l'époque s'appelait pas l'ADEME, qui est devenue l'ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui est une agence qui, ça c'est plus particulièrement ma fonction, mon travail, s'occupe de recherche, définir des projets de recherche, des programmes. On n'a pas de laboratoire propre, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons les recherches, mais on accompagne des entreprises, des laboratoires publics pour conduire ces recherches. Et puis, notre métier, c'est aussi ce qu'on appelle de l'expertise, de conseiller le gouvernement. On a été très, très sollicité dans ce qu'on a appelé le Grenelle de l'environnement ces derniers mois, pour savoir quel type de mesures, de politiques on pouvait mettre en œuvre par rapport aux enjeux dont on va parler ce soir. Et puis également des collectivités locales, bien sûr, les entreprises et les citoyens, vous tous. Donc on a des délégations régionales dans chaque région, en Côte-Charente, on a une délégation régionale, bien sûr. Et on aide aussi à réaliser des opérations exemplaires. Donc c'est à peu près dans l'ensemble de nos métiers. Voilà, alors le thème, le développement durable, c'est un thème très vaste. Donc je vais faire une présentation de 40 minutes à peu près, puis après engager le débat, écouter vos questions et échanger avec vous. Avant de commencer, je voulais peut-être vous poser une question. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire quelle est la définition ou une définition du développement durable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... il n'y a pas de définition officielle, je vous rassure, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je pense qu'il y a quand même certains d'entre vous qui doivent avoir une idée. Sinon, je vous prends à froid. Personne. Bon, alors on va commencer. Voilà, donc il y a une définition qui a été donnée il y a de ça déjà 20 ans. Vous voyez, en 1987, c'était un ministre suédois, je crois, si je me trompe, dans un rapport Brundtland, en 1987. Et donc le développement durable, alors encore une fois, ce n'est pas une définition officielle, c'est un développement qui répond aux besoins des générations du présent, nous tous, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est-à-dire comment faire en sorte que nos conditions de développement économique, tous nos besoins, ne mettent pas en cause, qu'on puisse assurer pour nos enfants, nos petits-enfants, que leur développement soit assuré, soit parmi en cause par notre propre développement. Et alors j'ai fait figurer sur cette diapo en dessous ce qu'on appelle souvent les trois piliers du développement durable. Alors, il y a des piliers qui sont très classiques, très connus depuis longtemps, c'est-à-dire l'économique. Alors, comment on mesure le développement? Le produit intérieur brut, la croissance économique, on a créé de la richesse, c'est du développement. Alors, si on ajoute durable, c'est parce qu'il y a deux autres composantes qui sont importantes. Une composante qui aussi existe depuis longtemps, la composante sociale ou sociétale, c'est-à-dire un certain nombre de valeurs de partage, de solidarité, etc., entre les êtres humains au niveau d'une collectivité, d'une nation ou de la terre entière. Et puis, un volet qui est plus récent, qui est celui de l'environnement, et qui est comment faire en sorte que, effectivement, ce développement ne remette pas en cause, de par l'impact que nos activités ont sur l'environnement, le développement des générations qui vont venir. Donc c'est un petit peu autour de ça que s'est développée la notion et le concept de développement durable. Alors après, on a pu rajouter d'autres volets, notamment les aspects culturels, que le développement doit aussi intégrer le volet culturel, intégrer aussi ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire finalement comment on va s'organiser, comment la politique, au bon sens du terme, va s'organiser pour que ce développement puisse être durable, quelles vont être les relations, le pouvoir, où va-t-il être, etc. Et ça, c'est aussi, je pense, un volet important à prendre en compte dans ce qu'on appelle le développement durable et les relations entre les hommes. Alors, pourquoi cette question et pourquoi maintenant? Alors, en fait, c'est vrai que c'est, comme je le disais, l'aspect économique, l'aspect social, sociétal, et toutes les relations qu'il y a pu y avoir depuis plusieurs siècles, existait. Ce qui fait irruption maintenant, c'est ce volet environnemental, parce que la démographie, d'abord, la planète se développe, on va avoir bientôt 9 milliards d'habitants sur Terre, ces habitants, leur niveau de vie augmente, même s'il y a encore des disparités très importantes, donc il y a de plus en plus de préemptions sur les ressources et sur la capacité qu'ont les écosystèmes à intégrer les pollutions et à nous fournir les services que nous fournissait la nature de façon historique. Donc on va retrouver parmi les changements, les enjeux environnementaux, des nouveaux enjeux qui sont liés au fait que la Terre est quand même un écosystème fini, l'atmosphère, les ressources en eau, etc. Et parmi ces enjeux, il y en a un qui est relativement récent, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, qui est le changement climatique. Donc le fait, vous en avez entendu parler, on dit des fois le réchauffement, l'effet de serre, le fait que petit à petit nos activités contribuent à ce que l'atmosphère se réchauffe parce qu'on émet des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone, du CO2, qui vient de la combustion, essentiellement, pour l'essentiel, de la combustion des combustibles fossiles. Et est en route un phénomène, c'est très peu le CO2 qu'on émet, mais il est suffisant pour déséquilibrer, c'est très peu par rapport à l'ensemble du CO2 qui est dans l'atmosphère, mais c'est suffisant pour déséquilibrer la machine thermique de l'atmosphère. Donc un enjeu qui peut être très très grave pour l'humanité, d'après l'ensemble des scientifiques. Un deuxième enjeu global également, c'est-à-dire qui se manifeste au niveau de la planète, c'est la perte de biodiversité. Donc on avait un nombre très important d'espèces, il y a eu une différenciation dans l'histoire des espèces de plus en plus grand, et puis l'homme, de par son action, tente à réduire la place des écosystèmes et éventuellement une perte de biodiversité qui peut être très importante. Et la perte de la biodiversité, c'est très compliqué, ça peut être des espèces comme les ours blancs, comme les gorilles qui disparaissent, mais c'est aussi des ressources dont on a besoin pour se nourrir, comme les poissons. La perte de ressources halieutiques, c'est fait partie des impacts de la diminution de la biodiversité. Donc c'est quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre des valeurs de garder quelques espèces en vie. Et puis des choses qui sont moins globales, pas au niveau de la Terre, mais des pollutions locales. La pollution de l'air, vous le savez, maintenant on le sait, crée des maladies. Alors on avait déjà identifié que ça créait des maladies respiratoires, de l'asthme, des bronchites. Mais maintenant, on sait maintenant que ça crée aussi des cancers. Mais ça, c'est sur du long terme. La pollution de l'eau également. Certaines ressources en eau sont polluées. Les sols pollués existent parce qu'il y a des activités humaines, qu'on n'a pas pris soin effectivement des pollutions, puis on va les retrouver dans les sols. Et puis, tout ça a des impacts, bien sûr, sur notre santé, mais aussi sur ce qu'on appelle les écosystèmes, donc les organismes vivants qui vivent autour de ces sources de pollution. Alors, ça, c'est tout le volet environnemental, mais il y a aussi des enjeux sociétaux qui sont encore là et qui sont de plus en plus là parce que ces pollutions, ces impacts vont pas être les mêmes, effectivement, pour tout le monde sur Terre. Il y a des gens qui s'en sortiront mieux et d'autres moins bien. Et évidemment, ceux qui ont le moins de ressources, de revenus, ils seront plus touchés que ceux qui ont la capacité à se protéger, à se guérir, etc. Donc, il y a des enjeux sociaux et sociétaux qui sont très liés aussi à l'évolution de ces problématiques environnementales. Alors, par exemple, l'accès aux services essentiels, il y a encore 2 milliards d'habitants qui n'ont pas accès à l'énergie, qui n'ont pas accès à la santé, qui ont un accès très limité aux ressources en eau. Les aspects sociétaux, c'est aussi l'égalité des chances, la place du handicap dans la société, l'élimination des discriminations, donc beaucoup de choses qui ont à voir par rapport aussi aux enjeux environnementaux, puisque, encore une fois, ce seront les plus faibles qui vont être les plus touchés. Alors tout ça, simplement pour vous dire que c'est très complexe. Et je crois qu'un des messages que je voudrais vous faire passer, c'est qu'il n'y a pas une solution simple, immédiate, reconnue par tous. Le développement durable, ça va être très complexe, il ne va pas y avoir de réponse immédiate et simple. Donc c'est important de le comprendre, c'est important d'expérimenter, puis effectivement de trouver un processus, je dirais, démocratique, et c'est là qu'on retrouve la gouvernance, comment on fait pour avancer et pour que les choses aillent mieux. Alors quelques mots aussi pour resituer ce problème du développement durable, pourquoi il y a une telle acuité de la question. C'est une association environnementale qui a utilisé ce terme de l'empreinte écologique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'empreinte écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tel que nous vivons, nous les Européens, on a une empreinte écologique, nos impacts sur le fait qu'on va consommer de l'eau, des ressources énergétiques, etc. Si toute la Terre, si tous les habitants de la Terre avaient le même mode de vie que nous, il faudrait 3 fois la Terre pour satisfaire ses besoins. 3 fois la Terre en termes de ressources d'énergie, en termes de ressources en eau, et également en capacité d'absorber toutes les pollutions que nous créons. Alors, quelques termes. 93% des ressources exploitées ne sont jamais transformées en produits finis. Ça veut dire qu'on exploite des mines, des ressources, et puis tout ça, il y a beaucoup de pertes, beaucoup de déchets en cours de route. 99% des matières contenues dans les biens qu'on vend sont devenues des déchets après 6 semaines. Et un tiers, ça je pense que c'est quelque chose, c'est assez frappant, un tiers de l'alimentation que nous achetons n'est jamais consommée. C'est-à-dire que ça devient des déchets avant même qu'on les consomme. Donc on voit le gâchis que ça peut représenter. J'ai fait figurer une campagne au Royaume-Uni sur cette thématique du fait que il y a beaucoup de choses qu'on achète et que finalement on ne consomme pas. Et puis 17 000 espèces sont menacées d'extinction, c'est la dernière estimation des scientifiques récemment. Alors, dans la présentation que je voudrais faire, c'est voir un petit peu comment, à partir de là, il faut agir, et pour vous montrer un petit peu plus précisément en quoi nous avons une responsabilité collective, vous montrer un petit peu à l'Européen qu'est-ce qu'il consomme, et donc là c'est au niveau de sa consommation finale, sa consommation de tous les jours, au cours d'une année. Donc vous avez une variété de produits de consommation, ça peut être des chaussures, des produits cosmétiques, des matériaux de construction, du chauffage, des journaux. Par exemple, on génère 8000 km de transport de marchandises par le fait de ce qu'on consomme chaque année. On va consommer 77 kg de lait, 96 kg de viande dans l'année. Donc vous voyez tous des produits qui finalement sont inoffensifs dans notre consommation courante. Et après, si on regarde comment ça se traduit en termes, par exemple, d'émissions de CO2, vous avez ici, par rapport à les émissions qui vont être émises de par nos activités, un Européen émet, alors il émet à travers effectivement ses activités, parce qu'il va se déplacer, il va se chauffer, il va acheter des produits qui eux-mêmes auront généré des émissions. Donc sur ces 9,3 tonnes, qu'on appelle équivalent CO2, 23% c'est les bâtiments, c'est le fait qu'on se chauffe, des fois on se climatise, j'espère pas trop dans un climat comme celui de Pont, un petit peu des fois. Des voitures individuelles, on va pour se déplacer, on va consommer de l'essence, du carburant, pour 17%. Aussi dans les lycées, 17%, les lycées, pas seulement les lycées, tous les bâtiments commerciaux, tertiaires. Les transports de marchandises, parce que finalement les produits qu'on consomme, il a bien fallu les transporter, et parfois depuis très très loin. Et ça va émettre aussi. Donc vous voyez que les quatre flèches rouges déjà font une part très importante de nos émissions. Mais tout le reste compte aussi. Et vous voyez que la consommation de viande, elle fait quand même déjà 5,4% des émissions de CO2 que nous consommons. Parce que, pourquoi la consommation de viande? Principalement de la viande rouge. J'aime bien la viande rouge. Parce qu'il a fallu cultiver des prairies, et puis qu'il y ait des bovins qui mangent l'herbe, etc., des abattoirs, etc. Donc ça fait une chaîne qui est très longue, et puis finalement qui va émettre beaucoup de CO2. Mais le CO2, ce n'est pas le seul enjeu. Aussi, on va générer des déchets. Et ces déchets, on en a de plus en plus, avec des difficultés de les éliminer. Alors on peut en valoriser certains. Bon, il y a maintenant de plus en plus du tri des déchets. On essaye de les recycler, mais il y en a encore une très faible part qui est recyclée. Et les déchets qu'on appelle ultimes, évidemment, personne n'en veut à côté de chez lui. Personne ne veut ni un incinérateur, ni une décharge. Donc, c'est un problème. Et vous voyez, là, finalement, dans nos consommations, ce n'est pas les mêmes postes qui vont générer les déchets. Mais les fruits, légumes, céréales et sucres, c'est 18% de nos déchets. Et finalement, ça, c'est des déchets qu'on appelle fermentescibles, qui pourraient être valorisés. Et c'est ce qu'on essaye de faire de façon à ce qu'il y en ait quand même de moins en moins qui aillent dans les décharges ou dans les différents domaines. Alors, je reviens au changement climatique en deux mots, pour vous dire un petit peu quel est l'enjeu. Je ne vais, pas m'étendre sur ce problème, mais plutôt pour vous situer l'ampleur du problème. Et puis, dans le débat, si vous voulez, on reviendra sur cet enjeu, cette problématique. Ce graphique, c'est une analyse de l'évolution des températures depuis 1000 ans. Sur les 1000 dernières années, dans l'hémisphère nord, quelle a été l'évolution des températures? Et vous voyez qu'elles ont été relativement stables jusque dans l'abscisse, vous voyez, jusqu'en 1900, à la fin du 19e siècle, elles ont été relativement stables, même un peu déclinantes. Et puis, une brusque élévation, très rapide, en l'espace de moins d'un siècle. Et maintenant, par rapport à une échelle qui est mise de façon arbitraire, hein, vous voyez qu'on est... On a grimpé de presque, on a encore grimpé un peu plus depuis que cette courbe a été faite, de presque un degré de plus. C'est pas grand chose un degré par rapport au jour et à la nuit, à l'hiver et à l'été, mais c'est considérable par rapport à la planète. Et ce qu'on voit déjà, alors ça c'est pas des perspectives, mais c'est ce qu'on constate, c'est que, bon maintenant je pense que les médias en parlent beaucoup, vous savez qu'on mesure déjà l'impact de ces variations de température, la fonte de la banquise, mais la fonte aussi des glaciers, et vous avez ici sur les courbes de gauche, vous voyez l'évolution de la masse des glaciers des Alpes avec, à partir des années 60-70, une décroissance de la masse de ces glaces de façon très importante. Et les photos de droite montrent l'évolution de la mer de glace depuis le début du siècle, où on a une fonte importante. Alors c'est un élément parmi d'autres, il y a beaucoup d'autres signaux qui nous indiquent qu'effectivement on a une croissance des températures, une remontée des cultures, vous savez, une avancée des vendanges, par exemple, qui se font de plus en plus tôt dans l'année parce que le climat se réchauffe. Et les scientifiques, les climatologues, essayent de voir quelle va être l'évolution de ces températures dans le futur. Et sur cette courbe, vous avez, excusez-moi, c'est en anglais, parce que c'est un document d'un groupe d'experts internationaux qui conseille les gouvernements. Entre 1900 et 2000, vous voyez, une augmentation de la température, puisque c'est le réchauffement en ordonnée, qui commence un peu avant depuis la moitié du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez là des moyennes de courbes, différents scénarios. Et sur ces scénarios, les scénarios les plus hauts, alors il y a bien sûr l'incertitude des modèles, on ne sait pas trop bien ça va augmenter, mais il y a aussi, entre les différents scénarios, c'est qu'est-ce qu'on va émettre à partir de maintenant. Et si on émet beaucoup de CO2, bon, on va être plutôt sur les courbes bleues. Et puis après, c'est des intervalles, ce qu'on appelle les rectangles, c'est des intervalles d'erreur. Donc vous voyez que ça pourrait monter jusqu'à 5,8 degrés à la fin du 21e siècle. Donc un réchauffement très important que la planète ne pourrait pas survivre, elle ne pourrait pas supporter. On ne sait pas à ce moment-là qu'est-ce qu'on deviendrait physiquement, quel serait notre devenir. Ce qui est inquiétant, c'est qu'actuellement, sur nos rythmes d'émission de CO2, donc en gros de consommation d'énergie, on est plus haut que la plus haute des courbes qui est là, depuis 2000. On a multiplié par 3 le rythme entre les années 90 et les années 2000. Alors les impacts, je ne vais pas en parler, mais c'est donc un réchauffement qui serait compris entre 1,4 et 5,8, une élévation du niveau des mers, la mer parce que l'océan se dilate avec la chaleur et que les glaciers fondent, des inondations dans certaines régions, de la sécheresse, et puis avec ça, après, des parasites qui se déplaceraient, qu'on constate d'ores et déjà, des maladies, etc. Donc c'est là c'est le côté un peu dramatique, peut-être, concernant. Je pense que c'est pas l'objectif n'est pas de se dire c'est terrible, il n'y a rien à faire, ou de culpabiliser. Mais c'est de regarder, à partir de là, on a finalement, à travers le changement climatique et la biodiversité qui vont ensemble, parce que si ça se réchauffe, on va avoir des pertes de biodiversité, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que chacun peut faire. Donc, sur la deuxième partie de mon exposé, ce que je voudrais, c'est effectivement un peu vous dire comment on pense que chacun peut y participer. Quand je dis chacun, c'est les différents acteurs de la société. Donc les États, parce que souvent on dit, bah oui, l'État n'a qu'à, l'État, les collectivités territoriales ont un rôle à jouer, et qu'ils ont à s'engager, effectivement, et je donnerai un exemple, ou deux exemples, les entreprises, souvent on lit dans la presse, c'est les pollueurs, c'est les entreprises, certainement, elles ne sont pas les seules, Et puis les consommateurs et citoyens, alors ça c'est pas nous, c'est nous tous, on a à être informés et responsables et de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi à notre niveau pour que, effectivement, ce développement soit un peu plus durable. Et puis j'évoquerai à la fin ce que la recherche peut amener comme solution également. Alors, je commence par les gouvernements, les collectivités. On parle des gouvernements au niveau national ont un rôle. On reviendra dans le débat si vous avez des questions. Au niveau des collectivités territoriales, c'est-à-dire les municipalités, les grandes agglomérations, elles ont un rôle qu'on appelle d'aménagement. C'est elles qui vont définir la façon dont les constructions vont se bâtir, les routes vont être construites. Est-ce qu'on va privilégier des villes plutôt un peu denses ou au contraire un habitat très diffus? Je crois qu'il y a des spécialités de génie civil, de bâtiment. Donc vous êtes... c'est des sujets que vous pouvez connaître à travers vos études. Vous avez une courbe à droite, alors vous ne voyez peut-être pas très bien. Vous avez en bas la densité de la ville, c'est-à-dire que les villes qui sont très à droite sont très denses. Donc la ville la plus à droite, sur la courbe rouge, c'est Hong Kong. Et à gauche, les villes les moins denses, c'est des villes des États-Unis, par exemple... Houston, au Texas, ou des villes qui sont très peu denses et avec un habitat très diffus. Et l'abscisse, c'est les consommations d'énergie pour les déplacements. C'est évident, mais c'est quand même spectaculaire de voir qu'entre différents types de villes, vous avez déjà entre, vous voyez, sur, vous avez Francfort, voilà. Vous avez ici des villes européennes qui sont relativement denses, mais vous voyez déjà qu'il y a des facteurs de 1 à 2 entre différentes villes. Et puis quand on passe à des villes américaines ou australiennes, on arrive à des consommations qui sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Donc on voit bien que la responsabilité des élus, de ceux qui définissent la façon dont l'espace va être organisé, va avoir un impact. Parce qu'effectivement, si on habite très loin d'un centre, très loin d'un endroit pour faire ses courses, très loin d'un endroit pour venir au lycée, on va devoir utiliser des véhicules, un, deux, trois par foyer, des distances importantes et effectivement des impacts importants. Alors, c'est lié aussi, ça va avoir un impact sociétal, et c'est là que c'est compliqué aussi, un impact économique. Vous avez ici la répartition des charges d'énergie. Donc, pour se déplacer, ben, il faut consommer de l'essence, et puis il faut se chauffer. Et vous avez ici, entre différents types de ménages, ici les ménages qui sont dans des grandes villes de centre, quel est le poids du coût de l'énergie entre le chauffage de la maison et l'essence, le carburant qu'il a fallu mettre dans les voitures par rapport à des ménages qui sont dans les zones très rurales. Donc avec le prix de l'énergie qui a augmenté de façon très forte ces derniers mois, même s'il a décru un petit peu, vous voyez que la part qui est liée à l'habitation qui est en bleu et en vert au-dessus, la part liée au carburant. Donc vous voyez, effectivement, c'est normal, hein, dans un centre-ville, les gens ont des transports collectifs en commun, ils vont dépenser moins. Alors, vous voyez toute la difficulté aussi que de l'impact que va avoir la croissance des prix de l'énergie parce qu'il y a de moins en moins d'énergie sur les budgets. Et là, on a aussi un enjeu social et pas seulement environnemental. Alors, je passe aux entreprises maintenant. Des entreprises... elles ont un rôle. Il y a des entreprises qui sont très polluantes, entre guillemets, c'est-à-dire qui émettent beaucoup, par exemple, de CO2, mais aussi d'autres polluants. Mais on voit que de plus en plus, les entreprises veulent et se disent, nous allons dans une démarche de développement durable. Alors pour certaines, c'est peut-être plus facile que pour d'autres. Il y a eu beaucoup, c'est vrai, il ne faut pas être naïf, depuis quelques années, beaucoup d'entreprises qui se sont déclarées favorable ou impliqué dans le développement durable pour se donner une bonne image et pour faire un côté de communication, je dirais, mais on voit quand même des entreprises qui maintenant, alors pas forcément pour être très sages et de bons élèves, mais parce qu'ils réalisent que leur activité ne sera pas durable et qu'ils pourront plus continuer comme ça dans 5 ans, dans 10 ans. Donc beaucoup d'entreprises commencent effectivement à s'engager dans le développement durable. Et puis, je dirais, c'est également des opportunités pour les entreprises. Les entreprises cherchent à croître, à avoir des marchés, des technologies. Et on voit que les énergies renouvelables, par exemple, constituent des opportunités très importantes. Beaucoup d'entreprises, le photovoltaïque, je prends un exemple. Vous savez, les cellules qu'on met sur le toit des maisons, il y a 4 ans, en France, beaucoup, beaucoup, gens très sérieux disaient, bon, ça c'est pour les écolos, etc. Maintenant, la plupart des grands groupes industriels en France, j'en citais deux, trois, Saint-Gobain, Total, Areva, etc., s'investissent sur ces énergies, pas pour faire de la pub, mais parce qu'ils considèrent que là-dessus, il va y avoir des marchés, il va y avoir de plus en plus d'activités là-dedans. Les éco-technologies, c'est-à-dire tout ce qui répare les pollutions, et puis même l'éco-finance, pour en revenir dans la discussion, c'est vrai, il y en a beaucoup qui s'investissent dans les produits financiers de l'écologie. Il faut espérer qu'ils ne suivent pas les schémas précédents dans les expériences qu'on vient de voir. Et puis un dernier point que je voudrais souligner, parce que ça je pense que c'est aussi important, ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, qui se développe depuis une dizaine d'années, c'est des investisseurs, c'est-à-dire des gens qui ont des moyens, puis ils veulent acheter par exemple en bourse des actions, et plutôt que d'acheter des produits dérivés sur ce qui a conduit à la crise que nous vivons actuellement, il y a des agences qui notent les entreprises en disant aux investisseurs, vous voulez investir sur telle entreprise, et bien cette entreprise elle a une bonne note parce qu'elle est en train de faire des progrès, parce que justement elle a une activité qui va pouvoir se développer, donc à long terme c'est une bonne opération, ce sera certainement une bonne opération, alors qu'une autre qui aura une mauvaise note, ce ne sera pas une bonne opération. Donc c'est une nouvelle façon, je dirais aussi, de voir comment les actionnaires, les gens qui placent de l'argent, pourraient effectivement contribuer à aller vers le développement durable en disant « j'achète pas n'importe quel type d'action ». Pour les entreprises. Et puis, je reviens à nous tous. Alors, je pense qu'il y a un premier volet, c'est d'être un consommateur informé, c'est-à-dire apprendre, connaître, essayer de se renseigner, conscient de l'impact de son mode de vie. Ça ne veut pas dire culpabiliser, ça veut dire simplement savoir que quand je prends ma voiture, sur une année, en gros, j'émets mon empreinte écologique. J'émets des petites réglettes, si vous voulez, ça permet de calculer à chacun, de façon grossière, quel est son impact écologique en fonction d'un certain nombre de critères d'activité dans l'année. Le nombre de fois où on prend l'avion, le nombre de fois où on prend sa voiture, etc., les kilomètres qu'on fait. Alors au-delà de la connaissance, c'est aussi faire un premier pas, et puis c'est vrai qu'il y a des gestes citoyens, comme on dit, des gestes, qui déjà sont une première contribution, alors qui ne coûtent pas cher, qui ne sont pas changer son mode de vie ou se priver, encore une fois, mais qui sont importants, comme le tri des déchets, l'éco-conduite, c'est-à-dire conduire de façon économique et avec un moindre impact sur l'environnement, des achats, comme on dit, responsables, c'est-à-dire quand on achète, essayer d'acheter avec moins d'emballage, ou d'essayer de... Il va y avoir des étiquettes sur les produits qui vont dire si le produit a généré beaucoup de CO2, donc de regarder, de faire attention. Et puis, alors, un troisième volet, après, c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique, c'est privilégier, effectivement, la façon un peu plus personnalisée, ce qu'on achète, c'est-à-dire qu'on achète un électroménager, il y a des étiquettes. Il y a des étiquettes aussi, maintenant, sur les logements, sur les véhicules, qui nous disent si c'est un produit qui est plutôt meilleur que les autres sur l'environnement, même s'il aura toujours un impact. Acheter des produits de saison, parce qu'effectivement, si on achète des produits qui viennent de l'autre bout du monde, ils vont avoir beaucoup de CO2 pour arriver dans nos assiettes ou dans les rayons. Des matériaux locaux, renouvelables, il y a de plus en plus de matériaux qui sont faits, y compris dans le bâtiment, maintenant avec de la paille, avec des produits qui ont des très bonnes performances. Alors ça, c'est pas encore dans nos modes de vie, c'est pas encore spontané, mais ça se développe et je pense que ça fait partie de notre responsabilité. Je reviens pour resituer un petit peu quelle est notre... responsabilité, justement, là, par rapport aux consommations d'énergie. En gros, un ménage français, une famille de entre 3 et 4, parce que c'est une moyenne, 3 et 4 personnes, vous voyez qu'on consomme 8,7 tonnes de pétrole par an. Alors, c'est du pétrole, mais c'est aussi de l'électricité, c'est aussi du gaz. Et vous voyez qu'il y a un poste important, c'est les déplacements des personnes. Ça en fait 1,5 sur le total. Donc ça, c'est quelque chose d'évidemment très important. Encore une fois, on ne peut pas tout changer, mais il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites. Le chauffage de nos logements, ça, on a une action directe là-dessus, en fonction de l'isolation de notre logement, de ce qu'on fait. L'eau chaude, l'électricité spécifique, donc ça, c'est toute l'électricité à la maison. Et puis après, tout le reste, c'est dans notre lieu de travail. Alors, le chauffage et l'électricité dans le lieu de travail, au lycée, dans les... les hôpitaux, dans les lieux de loisirs. Et puis le dernier paquet, eh ben, c'est finalement les produits qu'on a dans les supermarchés ou les loisirs qu'on fait. Il a fallu les produire, les transporter, tout ça a aussi consommé d'énergie. On retrouve un petit peu le même que celui sur le CO2 que je vous montrais tout à l'heure. Alors, pour vous donner un exemple, effectivement, de comment nous, citoyens, on peut et qu'est-ce qui peut se développer, vous avez à gauche, par exemple, des étiquettes sur les bâtiments. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est relativement nouveau, ça fait entre 1 et 2 ans que c'est obligatoire. Chaque fois qu'on achète un nouveau logement, celui qui vend, il est obligé de faire un diagnostic du logement, et du coup, il y a une étiquette, vous voyez celle de gauche, là, qui dit, voilà, c'est un D, par exemple. Ça veut dire qu'il est moyen, il n'est pas extraordinaire, mais il vous dit combien il va consommer d'énergie par an, et puis sur la partie violette, combien il va émettre de CO2 par an en moyenne. Et cette étiquette que vous connaissez sans doute sur les réfrigérateurs, donc elle est maintenant sur les logements, alors évidemment on ne les voit pas sur les portes des logements, mais quand le vendeur ou le bailleur va louer son logement, c'est obligatoire. Sur les véhicules, dans toutes les agences, c'est obligatoire. On ne le voit pas partout, mais c'est contraire à la loi. Normalement, dans toutes les agences, on vend un véhicule, il doit y avoir l'étiquette, pareil, avec les émissions de CO2 par kilomètre du véhicule. Et là aussi, ben, effectivement, il va y avoir des différences importantes. Et puis à droite, c'est ce qu'on appelle les labels environnementaux. Alors là, c'est sur les produits qui sont vraiment les meilleurs, pas sur les véhicules pour l'instant, mais... ça existe sur les aspirateurs, sur différents types. Ces produits, label NF Environnement, c'est pour signaler que c'est des bons produits. Donc ça fait partie de ce qu'on peut essayer de faire pour informer tout le monde et pour améliorer son mode de vie. Alors je vais terminer, avant qu'on parle et qu'on débatte un petit peu, de ce que la recherche peut apporter. Parce que là, effectivement, je vous ai parlé, il faut qu'on change nos modes de vie, et je crois que c'est incontournable, on devra changer tous nos modes de vie. Mais je crois aussi que si on veut arriver, parce que l'enjeu en 2050, c'est de diviser par 4 nos émissions de CO2 pour ce qui est du changement climatique. Et c'est sans doute l'enjeu qui est le plus ambitieux, l'objectif le plus ambitieux qu'on a dans le domaine de l'environnement. Diviser par 4 nos émissions, diviser par 4 en gros nos consommations de combustibles fossiles. Alors, des nouvelles technologies vont nous y aider, de nouveaux services, de nouvelles organisations, mais encore une fois, tout ça ira aussi avec de nouveaux modes de vie. Alors je voulais juste évoquer, puisque aussi certains d'entre vous, je crois, travaillent sur des filières automobiles, sur des filières électrotechniques, qu'est-ce qu'on peut attendre de la recherche actuellement? Alors vous avez ici différents exemples de produits qui sont en train de sortir et qui vont s'accélérer parce qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante. Vous avez à gauche un moteur roue pour véhicules électriques qui vient d'être mis au point par Michelin, une société française qui est bien connue pour ses pneumatiques. Mais là, ils viennent de sortir un véhicule qu'on peut voir au Mondial de l'Automobile à Paris, dans lequel il y a un moteur électrique, un moteur pour la suspension, et il y aura 4 roues, comme ça, avec 4 moteurs électriques, 4 suspensions électriques. Et la deuxième phase, ce sera quoi? Ce sera le freinage. Il n'y aura plus de mâchoire pour freiner la voiture. Ce sera un moteur, le moteur électrique et l'induction sur le moteur électrique qui va freiner la voiture. Entre 100 km/h et l'arrêt, moins de 3 secondes. Et même la direction sera à travers les roues. Donc au-dessus, il n'y aura plus rien. Il y aura un joystick pour conduire la voiture. Ce n'est pas futuriste. Ça, c'est pour dans quelques années. Il y a déjà toutes les fonctions ne sont pas encore prêtes, mais elles sont développées. Au milieu, je vais figurer un véhicule hybride rechargeable. Vous connaissez la Prius, qui est une voiture hybride, c'est-à-dire qui roule à l'électricité et à l'essence, mais elle ne se branche pas jusqu'à présent, la Prius. Elle produit son électricité par le carburant et le moteur thermique. Bientôt vont sortir des véhicules hybrides qui vont être rechargeables, parce que la Prius, son électricité pure, elle fait que 5 km à peu près. Et là, il va y avoir des expérimentations de voitures hybrides rechargeables en France, dans l'année prochaine, dans certaines villes de France. À droite, c'est l'image d'un petit véhicule urbain électrique développé au Japon, où ce sera des véhicules individuels. La plupart des déplacements dans les villes sont des déplacements de courte distance, où on est tout seul dans sa voiture, donc ce n'est pas forcément obligé de déplacer 2 tonnes pour se déplacer. Et je crois que tout ça va aller de pair avec des nouveaux services, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément la propriété de la voiture. Donc ce n'est pas qu'un enjeu technologique, ce sera aussi un enjeu de nouvelles organisations. Donc il va y avoir des véhicules en libre-service, des véhicules partagés, de l'autopartage, et ça c'est quelque chose qui va changer aussi fondamentalement notre rapport à l'automobile. Ça c'était pour les déplacements. Sur les villes, on va avoir de plus en plus de bâtiments très isolés. Vous savez que dans les normes, elles sont de plus en plus contraignantes. On va avoir des bâtiments de plus en plus économes en énergie, qui consomment peu, qui vont émettre peu de CO2. Et on sait d'ores et déjà faire ce qu'on appelle des bâtiments à énergie positive. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des bâtiments qui sont très bien isolés, bien ventilés aussi, parce qu'il faut que l'air soit renouvelé, et qui vont intégrer des énergies renouvelables, du photovoltaïque, des capteurs solaires thermiques, et qui finalement vont produire plus d'énergie qu'elles en consomment. Donc elles vont revendre de l'énergie, d'où le terme bâtiment à énergie positive. Des maisons passives, ça veut dire qu'elles vont utiliser l'énergie solaire pour se chauffer et pas avoir besoin effectivement de générer de générateurs de chaleur. À droite, vous avez l'image d'une ville au Japon où il y a 543 maisons équipées de capteurs photovoltaïques sur le toit et qui génèrent de l'électricité pour toute la ville et que le réseau électrique récupère, échange, mutualise pour tous les habitants. Et ça, c'est aussi des recherches que nous conduisons parce que ça, il y a des problèmes technologiques, comment le réseau va se comporter, etc. Et également, alors pour ces réseaux, on voit que jusqu'à présent, sur ces réseaux électriques, on était dans une logique où on avait des grosses centrales, des centrales nucléaires, des centrales à fioul, qui produisaient de l'énergie, et puis le réseau, il servait à le distribuer auprès de consommateurs. Et on va rentrer de plus en plus avec ces générateurs d'énergie électrique décentralisée, du photovoltaïque, de l'éolien, etc., vers de la production décentralisée. Et ça, ça va changer radicalement les réseaux électriques, nos modes de consommation, parce qu'on va devenir, il faut bien voir qu'avec des maisons à énergie positive, on va devenir des producteurs, et non plus seulement des consommateurs. Donc on va revendre de l'énergie, la mutualiser. Et une des idées qui va être expérimentée également bientôt, c'est qu'avec des capteurs photovoltaïques sur toit d'une maison, on aura de l'énergie électrique dans la journée, produite par le photovoltaïque. Mais on n'en aura pas toute l'année. Et la voiture électrique, elle servira de stockage. Donc en fait, on aura, alors c'est ce qu'on appelle la combinaison bâtiment-transport, on aura des véhicules qui vont non seulement nous servir à nous transporter, mais également à stocker l'énergie excédentaire dont on n'aura pas besoin à un moment donné. Et après, la maison, là, on tirera sur la voiture aussi, non seulement pour se déplacer, mais pour consommer dans la maison. Alors, je vais conclure pour qu'on parle un petit peu et qu'on échange. Donc, je crois que parmi les messages que je voulais vous faire passer, c'est que tout cela est quand même complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les problématiques, de toutes les solutions, de toutes les options. Mais en fait, en tout cas, moi, je suis convaincu, il n'y a pas une solution. Il faut chercher, il faut regarder, il faut envisager des modifications de nos modes de vie. Pas de miracle technologique. Très souvent, on rencontre gens qui disent, voilà, il y a une solution, c'est ça, et puis, je ne crois pas. Penser autre chose, c'est penser au long terme. Le développement durable, je crois, c'est vraiment se dire, voilà, je suis aujourd'hui, je fais ça aujourd'hui, je vis comme ça, et dans 10 ans, et dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, comment sera le monde, comment moi, en 2050, je sais tout cela, j'espère, moi peut-être plus, comment ça se passera, nos enfants, nos petits-enfants, comment ils vivront. Et puis du global au local, parce qu'il y a des problèmes globaux maintenant, mais on peut les résoudre aussi au niveau local, ou y participer en tout cas. Et un dernier point, donc, arbitrer entre l'avoir et l'être, c'est finalement d'un point de vue philosophique, en fait, comment on se définit nous-mêmes, est-ce que c'est ce qu'on a, ou est-ce ce qu'on est, ou ce qu'on voudrait être, et je pense que ça, c'est la démarche la plus importante, et j'arrêterai là-dessus, en vous disant que dans le débat, je suis prêt aussi à parler des perspectives de formation. Vous êtes au lycée, je pense que vous vous engagez peut-être dans des vocations professionnelles, et là aussi on peut discuter de qu'est-ce que c'est que le développement durable dans la carrière, dans votre carrière, dans ce que vous voulez faire dans la vie. On peut échanger là-dessus. Merci.